Donc, quelle belle journée, hein? Wow, avec le soleil qui brille. Et bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, il y a certains ici qui ne me connaissent pas, je m'appelle Robert Rive, marié à Sylviane, ma femme suisse. Hein, j'ai hérité les banques suisses, hein, avec ma femme, et le chocolat et toutes les fondues, hein, c'est la raclette, c'est super. Et bon, d'origine britannique, mais je suis aussi français. Hein, j'ai fait la demande de nationalité depuis plusieurs années. Mais je ne sais pas quelqu'un en anglais qui est français. Hein, c'est dur. Hein, c'est pas avec l'histoire, on a eu 100 années de guerre et non, maintenant, moi, je suis français. Et j'aime la France. Waouh, j'aime la France. Quel beau pays. Et je pense que Dieu aime la France. Et il aime plus que la France, parce que Dieu n'est pas comme en anglais. Il y a beaucoup d'anglais, ils visitent la France. Ils disent, oh, j'aime la France. Les collines, la mer, oh, les baguettes, le camembert, le vin. Ah, oh, mais les Français, j'aime pas. Ah, ils sont tellement impolis, ils disent ce qu'ils pensent. Ouais, mais ça c'est français, hein. Et les Anglais, on ne dit jamais ce qu'on pense, on est tellement hypocrites, ces deux peuples, hein. On ne se comprend pas, parce qu'en français, il va dire ce qu'il pense, et en anglais, sa nature, c'est de ne pas dire ce qu'il pense, pour être poli et tout ça. Et donc, voilà, on ne se rencontre pas. Et donc après, je ne sais pas combien d'années en France maintenant, je ne suis pas comme un Anglais qui dit, oh, j'aime la France, le camembert, le vin et tout ça. Mais j'aime les Français. Je pense que Dieu, il est comme ça. C'est vrai, il a créé la France, un beau pays. Les montagnes, la mer, la richesse du sol, toutes les régions, la Bretagne, le Nord, tout ça, c'est beau. Et je pense que chaque région porte l'empreinte de l'amour de Dieu. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là qui est beau. Et donc Dieu, il aime les Français, pas juste le paysage. Il aime les Français. Donc ça veut dire qu'il vous aime aussi ce matin. Hein, et il a un projet. Et je pense que quand Dieu a créé la France, il a créé un peuple de cœur. Je pense qu'il... Il y a des peuples de tête, il y a des peuples de cœur. Et je pense que Dieu, il a créé un peuple de cœur. Et j'aimerais parler du cœur ce matin. Je vais citer quelques vérités. Je ne sais pas si... Il y a des gens en France qui ont écrit des vérités. Et qui a écrit ceci, hein? C'est un petit... Je vais voir vos connaissances. Qui a écrit ceci? Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. C'est qui? Voilà. C'est le renard. L'essentiel est invisible pour les yeux. Mon secret est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà un autre... Le cœur a ses raisons, dont la raison ignore. Voilà, Pascal. Non, tu vois, toutes ces vérités qui sont là dans la culture. On parle du cœur, mais il y a aussi Éphésiens. Éphésiens 1:8, 1:18. Hein, on connaît moins bien en France, hein, Éphésiens 1:18. C'est l'apôtre Paul, hein, qui écrit ça. Hein. Il écrivait ça à une église en Turquie. Il écrivait ceci. Il écrivait, c'est une prière. Et peut-être, comme je dis, Dieu, il aime les Français. Et il a fait de la France un peuple de cœur, même les peuples du Nord, un peuple de cœur. Voilà, et il a écrit ceci, c'est une prière. Il dit, voilà, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Et après, verset 18, il fait une prière. Et c'est une drôle de prière d'un côté, mais je pense que c'est la prière de Dieu pour vous ce matin. C'est une prière qui est là. Et il dit ceci, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Drôle de prière, n'est-ce pas? sais pas si vous avez jamais prié ça pour quelqu'un. Voilà, Seigneur, illumine les yeux du cœur de tel et tel. Et donc moi, j'ai des lunettes et je vois de temps en temps, là, avec mes yeux. Hein? Et on est tellement habitué de voir des choses avec nos yeux. On voit la télévision, et on voit les actualités, on voit les inondations, on voit Haïti, on voit Chili, on voit Sarkozy, on voit toutes ces choses-là. Et on voit avec les yeux, et on voit des choses matérielles. On voit quelqu'un, il est bien habillé, il est mal habillé, il est grand, il est petit, il a des oreilles, et tout le reste. Et on juge par ce que nous voyons avec des yeux, et ça, en quelque sorte, on est découragé, parce que bon, ça ne va pas, parce qu'on est tellement matériel. On est conditionné pour être matériel, pour notre vie d'être dirigée par ce que nous voyons avec les yeux. Et la plupart des gens vivent comme ça. Et c'est pour ça, Paul ici, et Saint-Exupéry, et Pascal, hein, ils n'avaient pas tort de dire, voilà, il y a un autre héritage pour la France, il y a un autre héritage que de juste voir des choses matérielles avec des yeux. Et pour entrer dans cet héritage, on peut commencer à voir des choses avec le cœur. De voir nos enfants, nos compagnons, de voir nos collègues, de voir notre région avec le cœur. Peut-être vous le faites déjà. Mais est-ce que je vois bien? Et je dis, mais Seigneur, illumine, c'est vrai. Illumine les yeux de mon cœur. Et si vous avez un cœur illuminé, il y a une raison pour ça. Afin que vous sachiez quoi? Quelle est l'espérance? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et tout le reste, à ses destinées? Parce que Dieu n'est pas, il ne vote pas pour la déprime, Dieu. Je pense que s'il y a un mot qui est complètement contraire à Dieu, c'est le mot où je suis déprimé, la déprime. Parce que Dieu, il éclate d'espérance et de vie, et d'énergie, et de victoire, et d'amour. Et Dieu est un Dieu d'espérance. Et il y a un avenir en Dieu, il y a une destinée. Et quelquefois, bah, c'est les derniers temps, les temps vont être durs. C'est probablement ici, ça va être très dur. Si vous ne voyez des choses que avec les yeux, oh là là, quelle déprime. Mais si on voit des choses avec le cœur, ça change tout. Parce que là, ça ouvre la porte à l'espérance. Parce que les choses, on ne voit bien qu'avec le cœur. Quelquefois, des choses qu'on voit, on ne voit pas bien. On n'a pas toute la vérité. On a tous nos préjugés, nos cultures. C'est filtré. Mais ce qu'on voit avec le cœur, on voit bien. L'essentiel est invisible pour les yeux. Que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Et si je vois avec mes yeux, on appelle ça, j'ai la vision. Est-ce que vous avez une bonne vision? Quelquefois, on va chez l'opticien, on regarde, et oh, vous avez une vision défectueuse, on va acheter des lunettes. Et donc j'ai dit, mais Seigneur, voilà, mets des lunettes là. C'est pas lunettes spirituelles, illumine, que je vois bien avec le cœur ce matin. Et il faut avoir une vision du cœur. Qu'est-ce que mon cœur voit? Si je disais ce matin, qu'est-ce que votre cœur voit? Qu'est-ce que vous voyez avec le cœur? C'est un peu métaphysique d'un côté, mais c'est bien de... Qu'est-ce que je vois avec le cœur? Est-ce que j'arrive à l'exprimer? Qu'est-ce que je vois avec le cœur? Donc j'aimerais parler de la vision du cœur ce matin. D'avoir un cœur qui voit, qui illumine les yeux de votre cœur. Et quand vous avez un cœur qui voit, ça va vous donner de l'espérance. Juste encore une citation, j'aime bien lire, et j'aime bien C.S. Lewis, hein, écrivain anglais, qui il écrit beaucoup de livres sur Dieu, la foi, mais c'est bien parce que, quelquefois, bon, quand on interprète l'écriture, bien sûr, il faut interpréter ça avec comment je peux dire, avec la théorie. La théorie, les bonnes doctrines, Calvin, Thomas d'Aquin, Saint Augustin, on a un héritage des gens qui ont fait la théorie, la théorie de la foi, très bien. Et après, surtout dernièrement, avec Marx et le modernisme, postmodernisme et tout le reste, on dit, mais c'est pas juste la théorie, il faut le praxis. Et donc, on a la théologie de la libération. Allez, il faut agir. C'est pas juste ce qu'on pense, c'est ce qu'on fait. On s'en fiche de toutes les doctrines. Si quelqu'un a faim, il faut agir. C'est le pauvre paysan qui a la vérité. Parce que c'est lui qui est victime, qui est là. Et donc là, on a deux extrêmes, théorie, praxis. Et donc, quand j'interprète la Bible, comment théorie, praxis? Mais il y a une troisième voie que j'aime beaucoup. Et je dis, c'est la voie de la poésie. Poésie, la créativité, l'inspiration et la passion. Et je pense quelquefois, en tant que protestant, on est très théorie. On est très théorie. Voilà, la théorie, la bonne doctrine, la parole. Je pense quelquefois, avec le temps, les catholiques et d'autres sont plus praxis un peu, les bonnes œuvres, allez, on va aider. Et donc, c'est bien. Et donc, il faut les deux. Comme toute chose, il faut être allé. Mais il faut une troisième voie. Parce qu'il y a des mystères qu'on n'arrive pas à expliquer, ni par le praxis, ni par la théorie. Il faut la poésie dans la vie. Et là, comment parler de la Trinité, comment parler d'avoir des yeux du cœur et tout ça, si ce n'est pas par la poésie. Et j'aime C.S. Lewis parce qu'il écrit des livres, un peu des allégories, qui parlent des vérités comme la vie éternelle, qu'est-ce qui va nous arriver après. Bon, si la théorie, hein, voilà, si tu n'es pas sauvé, c'est fini pour l'éternité, fini, au sauvé, le ciel, l'enfer. Et c'est bien d'avoir une bonne théorie, hein, mais quelquefois je dis, et après le praxis, wow, hein, c'est ce qu'on vit, et au milieu de tout ça, je vois la poésie. Et donc, si jamais vous avez l'opportunité de lire Un autobus vers le ciel, c'est en anglais, c'est The Great Divorce, hein, c'est un super livre. Et lui, il voit toutes ces personnes qui sont découragées dans leur autobus. Bon, c'est les gens qui étaient un peu en purgatoire, une sorte de purgatoire. C'est une histoire, hein, c'est pas la doctrine. Et donc là, et ils sont en route peut-être vers le ciel, mais ils veulent pas le ciel parce qu'ils sont trop misérables pour vouloir le ciel. Et donc ils veulent retourner après. Mais ils regardent tous ces visages dans ce bus et tout d'un coup ils voient ceci. Il dit ceci. Il voit les visages là. Il dit, je voyais des visages serrés, remplis. Non de possibilités, mais d'impossibilités. Quelle horreur. Je voyais, hein, c'est pas le métro à Lille. Hein. C'est pas quand vous voyez vos collègues lundi matin, ou à l'école, je sais pas, autour de la table pour le petit-déj le matin. Je voyais des visages serrés, remplis non de possibilités, mais d'impossibilités. Et j'ai dit, oh Seigneur, que mon visage ne soit pas serré, rempli d'impossibilités, mais que mon visage soit animé par les yeux ouverts de mon cœur. Parce que je pense que le visage est le reflet du cœur. Et que même nos églises évangéliques ne soient pas remplies de visages serrés, remplis d'impossibilités. Parce que souvent dans nos églises, on n'a que des visages serrés, et rempli de tout ce qu'on ne peut pas faire dans la vie. Un tas d'interdictions, on ne peut pas. Et je pense que Dieu, c'est le Dieu de possibilités. Il rend des choses possibles. Même des choses impossibles, il rend possibles. C'est comme il a dit à Marie, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et je pense qu'avec les yeux de notre cœur ouverts, on a un visage rempli de possibilités. Et je pense que notre région, nos églises dans la région, on a besoin de retrouver ce visage rayonnant, rempli de possibilités. Parce qu'autour de nous, il y a les gens qui n'ont pas de possibilités, qui sont découragés, sont dans la déprime. Mais ils ont besoin de voir des visages ouverts, accueillants, les visages qui brillent, qui sont remplis de possibilités. Et c'est accueillant, et c'est ça notre témoignage, comme Saint François d'Assise a dit, même sans parole. Et on n'a pas besoin, il a dit, prêchez toujours l'évangile, et si nécessaire, utilisez des paroles. Et moi j'aime bien des paroles, mais c'est notre visage sans parole qui parle avant nos paroles. Et si, avec un visage serré, on dit, voilà, voici ma théorie, ah, ça ne va pas passer. Et il faut que notre message soit incarné aussi par une foi véhiculée par nos cœurs ouverts. Quoi. Et donc, avoir une vision du cœur, une vision ouverte. Et donc, vite fait, je vous termine à quelle heure là? Parce que je vois que quelquefois je commence et... c'est pas l'homélie, hein, dans 10 minutes. Et donc là... je vais vous donner 3 visions, et j'ai tiré ces visions de la vie de Jésus. Parce que j'imagine que quand les gens voyaient Jésus, vous imaginez, Jésus arrive dans un village, et les gens, ils regardent Jésus. Je ne pense pas que le visage de Jésus était serré, rempli d'impossibilités. Je pense que le visage de Jésus a dû, en tant qu'homme, parce que Dieu est devenu cher homme, le visage de Jésus, peut-être c'était le visage le plus rempli de possibilités que l'humanité a jamais regardé. Et je pense que ça attirait même une femme prise dans l'adultère, condamnée par la loi et la religion. Toutes ces pierres qui tombaient sur elle, elle regarde à Jésus et elle voit la possibilité du pardon, d'un nouveau départ. Le lépreux qui arrive et voilà, rejeté, impur et Jésus qui l'accueille, et la guérison sortait presque, je dirais, de son visage, de sa foi. L'accueil, la force qui sortait de sa vie, parce que son cœur était ouvert. On voyait bien, et le cœur de Jésus n'était pas aveuglé. Le cœur de Jésus était ouvert, c'était illuminé. Et bien sûr, nous, on n'est pas Jésus. Jésus était sans péché, c'était le péché qui voile nos cœurs. Le cœur de Jésus était tellement, tellement ouvert qu'il illumine. Il avait une vision du cœur. Donc, les 3 visions de Jésus, d'accord? Et donc, nous, si on peut même manger quelques miettes de ces visions, tant mieux. La première vision qu'il avait ici, c'était la vision du Père. D'accord. Ici, il voyait le Père. Le Père. Donc, Jean 5, 19. Jean 5, 19. Donc, Jésus, il parle, il dit, en vérité, ah, ça c'est surprenant. Ça veut dire, bon, j'ai menti jusqu'avant, j'ai dit des grosses bobards, mais maintenant je vous dis la vérité. Oh non, ça c'est une mauvaise théorie, là, je dois changer. Ça c'est ma poésie. Non, ça veut dire que c'est vraiment important, ce que je dis maintenant, c'est important. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même. Ça peut vraiment vous libérer. On ne peut rien faire nous-mêmes. On ne peut rien faire. On ne peut pas être pardonné, on ne peut pas être meilleur. On ne peut pas faire des choses pour être meilleur. On ne peut rien faire nous-mêmes pour connaître Dieu. On ne peut rien faire. Tout est cadeau, tout est grâce. On ne peut rien faire. Mais, ça ne veut pas dire qu'on reste dans une passivité. Mais seulement ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Ce qu'il voit faire le Père. Et donc Jésus, il avait les yeux du cœur constamment rivés sur le Père. Il voyait ce que le Père faisait. Ça lui donnait une intuition. Ça lui donnait une capacité d'être un peu dans la rivière de l'esprit, de suivre le courant. Et Dieu, je suis sûr que le Père est en train de faire ça. Le Père, il voyait au-delà. Il ne voyait pas avec des juste matériellement. Il voyait que Dieu aimait cette Bartimée qui criait, l'aveugle. Hey, tais-toi. Non, il voyait. C'est pas tais-toi. Il continuait pas sa route. Il était sensible. Il dit, et si Dieu, si le Père est en train de crier par ce Bartimée-là, je vais m'arrêter, je vais lui parler. Et donc sa vie était dirigée par ce qu'il voyait faire le Père. Il avait une vision du Père. Et je pense que quelquefois dans nos vies, on doit compter 10. Juste compter 10 pour dire, est-ce que je fais toutes les choses moi-même? Je suis juste animé par les besoins, par ce qu'il faut faire. Ou est-ce que je discerne le Père dans ma vie? Est-ce que je discerne les choses qu'il prépare d'avance pour moi? Et je n'ai qu'à entrer dedans. Mais il faut avoir un temps d'écoute, un temps d'éveil du cœur. C'est une sorte d'intuition, une sorte de discernement. Au lieu de juste foncer, tête baissée dans la vie, de dire, allez, je vais préparer mon cœur pour discerner, pour voir ce que le Père fait. Est-ce qu'on va le faire à 100% comme Jésus? Non, on est limité, on est pécheur. Mais quand même de grandir dans cette capacité de voir ce que le Père est en train de faire. Qu'est-ce que le Père prépare pour ma vie, pour mon futur? Il y a beaucoup de grandes décisions à prendre dans la vie. Donc pourquoi ne pas essayer de voir ce que le Père fait avant de faire moi-même, de discerner ça? Et même pour les petites choses, même dans les petites choses, ça marche. Et donc on peut dire, ah mais ça c'est dur ça, ça c'est un peu spirituel. Là, moi je suis un être, je suis programmé pour agir comme ça, comme nous tous. Mais bon, d'accord, ça c'est le matériel. Moi je parle de qu'il illumine. Peut-être on est aveugle, on ne voit rien, d'accord. Mais au moins dire, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Mais comment est-ce qu'on peut avoir un cœur illuminé pour voir ce que fait le Père? C'est très simple, parce qu'il dit en verset 20, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Le désir, Dieu a un désir de nous montrer des choses parce qu'il nous aime. Et la clé de cette révélation, c'est de se sentir aimé par Dieu. Vous savez, quand j'étais un petit garçon à Londres, je devais visiter ma tante Nelly toutes les après-midi. Quelle courvée! C'était ennuyant. Et ma tante Nelly me regardait. Oh! Et disait à mon papa, il est grand! Il est grand! Pourquoi est-il si grand? Et mon papa répondait, il est grand parce qu'il mange beaucoup de pudding. Et après, à la maison, je disais à mon papa, et je suis grand parce que je mange beaucoup de pudding. Il dit, non, 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 ça, c'est pas la vraie raison. Il dit, ça, c'était juste pour ta tante Nelly, le pudding. Il dit, toi, tu es grand parce que je t'aime. Et c'est mon amour qui te fait grandir. Après, il m'a embrassé. Quel beau souvenir d'enfance, de l'amour d'un père qui... Et ce n'est pas le pudding qui vous fait grandir. Hein. Ce n'est pas la loi, il faut la religion, toutes ces choses-là. C'est l'amour du père véhiculé par Jésus, le Saint-Esprit, tout ça qui vous fait grandir. Et même le jour de son baptême, on va juste vite voir ça, Luc chapitre 3. Baptême de Jésus-Christ, Luc 3, 21. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendait sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il vient une voix du ciel. Waouh! Une voix du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. C'est ça. Jésus, il était aimé. Il avait une révélation à son baptême de l'amour du Père. Et quand le Saint-Esprit nous touche, parce qu'il faut le Saint-Esprit, il nous donne, il ouvre nos oreilles, il ouvre notre cœur. Et le Saint-Esprit nous dit, tu es aimé, tu es mon fils, tu es ma fille, bien-aimé, objet de mon affection. Et je prie pour vous, que chacun de vous, demain matin, en vous levant, bon, il y a la radio, il y a les bruits, il y a les cris, il y a toutes sortes de bruits, mais voilà, il y a les oreilles matérielles. Il y a dans le cœur ouvert une oreille aussi, parce que bon, le cœur a des yeux et des oreilles. Mais d'entendre demain matin, tu es ma fille, bien-aimée, objet de mon affection. D'entendre, tu es mon fils, bien-aimé, objet de mon affection. Et c'est cette intimité, cet amour qui nous aide à discerner la voix du Père dans cette journée. Je suis aimé, je commence bien, le Père aime le Fils et lui il montre tout. D'accord, c'est à la base de cette intimité avec le Père qu'on peut, on peut entrer dans des choses prévues. Mais si voilà, on s'écarte, voilà, je ne sais pas où je suis aujourd'hui, voilà, je suis qu'un rien, on est ballotté par tous les vents, on peut perdre. Bon, c'est pas grave, on revient, il y a la grâce. Mais si je peux capter quand même quelques projets de Dieu pour aujourd'hui, je peux marcher, appuyer avec son vent dans mes ailes, quelle victoire. Et même pour toute une communauté, il dit en Deutéronome, je ne vais pas le citer, mais il dit des choses doivent être établies par deux ou trois témoins. Et on ne peut pas juste accepter le témoignage d'une personne. C'est Deutéronome 19:15. Et après, Jésus il reprend ça en Matthieu 18:20. On peut juste voir ça. 18:19. En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela le sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Et vous voyez là le principe aussi, c'est quelquefois, bon, moi j'ai une vision, et l'autre dit, oh, moi j'ai une vision, et le troisième dit, moi j'ai une vision. Et quand vous avez 10 personnes qui ont chacun leur vision, vous avez 10 visions. Hein? Je vais foncer. Chacun leur vision. Oh, j'ai vu le Père. Oh, il est en train de nous demander de mettre des chapeaux sur la tête avec des oranges et de crier, Dieu est une orange. Ah, Dieu t'a vraiment... Oui, je suis convaincu. Oh non, c'est des poires qu'il faut mettre sur la tête. Non, moi j'ai vu des bananes. Ah d'accord, on aura l'église banane, l'église orange et l'église poire. Et il dit, mais comment est-ce que... Si chacun... Oh, mais j'ai vu ça avec mon cœur, le prédicateur, il a dit, il faut avoir une vision, et Dieu fait ça, c'est essentiel. Mais il faut 2 ou 3 témoins pour valider pour une église. 2 ou 3 témoins. Et je pense que ce qui est très très fort, c'est quand tu as un minimum, ou quand vous avez un minimum de 2 ou 3 personnes qui ont vu ensemble ce que le Père fait. Ça, c'est la richesse pour une communauté. C'est quand 3, 2, 3, un minimum de personnes prient selon la même vision du cœur. Ça, c'est la force de l'Église. 2 ou 3, là où 2 ou 3 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander. Ça veut dire qu'on a vu des choses. Ce n'est pas 10 personnes avec 10 visions séparées, mais c'est... Voilà, on a une sorte de masse critique de personnes qui ont eu la même révélation. Ça, c'est important. On a eu la même révélation. Et c'est validé. Ce n'est pas juste chacun dans le coin. C'est validé, bien sûr validé par la parole de Dieu aussi. Et donc, première vision, je vais aller vite. La vision du Père. Et cette vision est née de l'amour du Père et validée en communauté. D'accord. Né de l'amour du Père et validé en communauté. Voilà la deuxième vision qu'il faut avoir du cœur. Luc 10, 18. Luc 10, 18. Il leur dit, c'est les 70 qui reviennent après une grande campagne d'évangélisation où ils ont vaincu les démons et tout le reste. Et donc verset 18 de Luc chapitre 10, il leur dit, je voyais, donc encore la vision, je voyais Satan. Oh, Satan, oh, on parle de Satan. Donc, dans notre monde, vous pouvez parler de Dieu, vous pouvez parler de Jésus, bon, parler du Saint-Esprit, c'est encore un peu plus gênant. Mais si vous parlez de Satan dans notre monde, ils disent, oh, vous êtes fous. Les gens, ils croient plus à Satan. Mais quand je vois le mal, quand je vois le mal autour de nous, Satan est bien vivant. Il y a une réalité de guerre spirituelle. Je sais, il faut être sage quand on parle de ça, parce que c'est vrai, les gens nous pensent, il est sorti du Moyen-Âge, il parle de Satan et tout ça. Mais Satan est une réalité. La réalité de la crainte dans des cœurs, la peur qui domine, c'est une réalité. Et Jésus, il voyait la réalité. D'un côté, on voit le bien avec notre cœur, mais on voit le mal aussi avec notre cœur. Et Jésus ici, il dit ceci, je voyais Satan. Mais bon, est-ce qu'il voyait Satan énorme, glorieux, énorme? Non. Il voyait Satan tomber. D'accord? C'est très important. Il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il dit ceci, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Et ça, c'était la vision de Jésus dans son cœur. La deuxième vision, c'est la vision de la défaite totale de Satan, du mal. La défaite totale du mal. Parce que la vision grandit dans l'absence de la peur. Si vous voulez grandir, avoir un cœur ouvert, il ne faut pas vivre dans la crainte. La crainte voile le cœur. Et donc, Jésus, quand il est mort sur la croix, il a accompli la prophétie de Genèse qui disait, voilà, lui, le serpent, il va mordre ton talon. D'accord, oh, ça fait mal. Mais, paf, tu vas écraser sa tête. Et là, c'est la victoire de la croix. C'est une victoire, oui, contre le péché. Oui, c'est une victoire contre la mort. Mais c'est surtout une victoire contre Satan lui-même. Pas juste une sorte de mal vague, virtuel, mais contre l'incarnation du mal, Satan lui-même. Christ a vaincu Satan. Le sang de Jésus crie, un cri de victoire contre Satan. Et ça, pour nous des chrétiens, il ne faut pas qu'on soit rongé par la crainte. Il faut qu'on puisse voir du cœur la victoire totale. Il y a les gens qui ont très peur de servir Dieu et de témoigner. Il y a les gens qui m'ont dit, « Oh, mais ça fait longtemps que vous servez Dieu, mais Satan, il doit vous attaquer beaucoup. Hein, quand vous servez Dieu, il y a des répercussions, attention quand même, il y a toujours des choses qui tombent sur votre tête. » Mais si on croit vraiment tout ça, on ne va jamais rien faire. On va être toute timide. Oh, peut-être j'ai peur. Et d'un côté, on a trop peur dans l'Église. Et Jésus, il n'avait... Oh, il faut imaginer Jésus, l'homme le plus courageux qui a jamais marché sur la terre, mais pas avec le macho, voilà, je suis courageux. C'était... Il incarnait ce courage, cette douceur, cette force apprivoisée, incroyable. Il était là, mais quel courage. Il n'a jamais eu le moindre goutte de crainte dans ses veines. Et donc son cœur était pleinement ouvert, rempli de possibilités. Vous savez, la crainte vous vole des possibilités de vivre. Hein, la crainte vole vos possibilités de vous épanouir dans la vie. Toutes les choses j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait parce que moi j'avais peur. Mais allez, foncez, il faut casser la crainte. Bien sûr, je ne parle pas d'être stupide, de dire voilà, je vais me jeter devant un train parce que je n'ai pas peur. Là, ce n'est pas ça. Mais il y a une sorte de crainte légitime qui est instinctive. Ça, je ne parle pas de ça, je parle de ces choses qui nous rongent. Et aussi, il parle de marcher sur des serpents, des scorpions. Ça, c'est des choses qui nous piquent. Et quelquefois dans la vie, on est piqué. Hein, il y a beaucoup de serpents. Ah, t'es nul, des critiques, des condamnations qui nous piquent. C'est affreux. on est piqué à droite et à gauche, quelque part on est tranquille, on sort le pique-nique, il fait beau, on est dans le champ, on mange un bon sandwich au miel, oh ça m'a piqué. Et il y a les journées magnifiques, on est heureux, on arrive, bonjour, ça va, ça va. Et tout d'un coup, bam, la guêpe arrive. Et il y a toujours des guêpes dans la vie. C'est pas qui est votre guêpe, mais il y a des guêpes, il y a des serpents qui laissent leur venin, qui nous piquent quelquefois. Et c'est là aussi où il faut avoir l'antidote qui est le sang de Jésus. Qui, quand, le pardon, la grâce, on pardonne, on dit, oh, je vais pas me laisser dominer. Et rien ne pourra vous nuire. Et c'est bien quelquefois d'avoir un cœur teflon, où on ne laisse pas coller des choses. C'est que quelqu'un nous a piqué il y a 10 ans et c'est toujours là. On dit, mais allez, que ça parte, que ça parte. Et rien ne pourra me nuire, même des mauvaises paroles, même des choses agressives. On vit dans un monde difficile. Mais la promesse est, vous marcherez et vous marcherez sur des serpents et sur des scorpions et rien ne pourra vous nuire. Et ça, c'est notre privilège et notre place. Bon, est-ce qu'on va le vivre parfaitement? Non, parce que Jésus n'est pas de retour. On est dans le déjà, pas encore du royaume. Mais jusqu'au maximum, Seigneur, je veux vivre sans crainte et je veux vivre avec cette confiance que rien ne pourra me nuire. Et c'est plutôt moi qui est très dangereux pour des guêpes. Je suis plus grande qu'une guêpe. Et si je trouve cela, je vais l'écraser, pas la personne. Mais l'esprit derrière. Mais l'esprit derrière. Et donc, la deuxième vision, c'est une vision de la défaite totale de Satan. Qu'on ait un peu de courage. Et donc, la vision du Père, la vision de la défaite de Satan. Et la troisième vision, je vais vous donner, ça se trouve dans Jean 4, 35. Jean 4, 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ah, toujours futur. Dieu va agir l'année prochaine. Voilà, il faut attendre, il faut qu'on prie encore plus, il faut que les choses soient préparées, encore. Et je ferai la vaisselle demain, je rangerai ma chambre demain. Il y a toujours 4 mois, il y a toujours 4 mois. Moi, je suis très bien pour encore 4 mois. Encore 4 mois, et tranquille, là, j'attends la retraite, là, encore 4 mois avant d'agir. Ah, le réveil n'est pas ici, c'est pas encore la saison, encore 4 mois. Et je pense que la France a été encore 4 mois depuis 2 siècles. Encore 4 mois depuis, et après, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. 4 mois peut être vachement long quand c'est une excuse, hein. 4 mois passent et après on a passé à côté de l'important. Et donc Jésus, il dit, oh, allez, non, c'est ça, c'est... Il n'accepte pas ça. Il dit, vous dites qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Eh bien, moi je vous le dis, je vous le dis. C'est fort, hein, il dit ça à ses disciples, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui sont blanc pour la moisson. Et ça, c'est d'avoir avec le cœur la vision de la moisson. Que les champs sont blancs en France. Les gens attendent. Peut-être Dieu veut changer certaines manières de parler de Dieu, de l'Église, nos fonctionnements, mais comme cette femme samaritaine qui n'était pas prête à juste aller à la synagogue avec ses 5 maris et tout le reste, hein, c'était, oh, elle aurait été jugée. Mais Jésus, il savait comment parler à cette femme dans la réalité. Hein, et il a vécu une sorte d'église autour d'un puits. J'ai dit, c'était magnifique. Dans le quotidien, voilà, on parlait relationnel. C'était pas, voilà, il faut te préparer, mettre une bande de joli chapeau et aller à l'église. Où elle aurait été jugée. Non, il a rencontré là où elle était. Et je pense que nous, on doit aller là où les gens sont. Dans leur réalité, dans leurs mœurs qui sont très très loin des mœurs de l'Église d'un côté. Mais ça ne va pas changer. Nous allons, l'époque où les gens sont les gentilles petites familles a changé. c'est fini en Europe, tout, tout. C'est fini, c'est l'exception. Et donc il faut qu'on s'adapte, ça ne veut pas dire qu'on dit tout est fantastique, on peut faire n'importe quoi. Non, ça veut dire qu'il y a beaucoup de grâce. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de grâce, pas de jugement, et qu'on construit les gens. Et qu'on puisse aussi vivre l'Église avec des situations qui ne sont pas toutes parfaites. Voilà, toutes parfaites, tout le monde arrive, tout le monde est gentil, copie conforme, voilà, bon chrétien, voilà. Et si on est comme ça, vous allez voir, il n'y a que des têtes grises dans l'Église. Tu sais, moi j'allais dans des réunions, bon, j'ai fait beaucoup de réunions catholiques, protestantes, hein, on a la même chance, hein, on attire beaucoup de personnes âgées. Et je pense que la société a tellement changé, et on doit s'adapter. Et après on dit, oh, c'est dur la France, c'est dur, les gens ils sont fermés. Je pense que personne n'est fermé à l'amour. Et je pense que j'ai rarement vu une soif aussi grande pour l'amour. Mais là où ils sont fermés à notre religion. Je dois dire ça. C'est comme une époque où les gens sont fermés à l'Église. Mais l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est les gens qui communiquent, qui parlent. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas maintenir l'Église, que demain, il faut tout fermer. Je ne dis pas ça du tout. Parce qu'il faut des repères, il faut des structures. Mais je dis qu'il faut une ouverture. Il faut une ouverture et il faut avoir cette foi de voir que les champs sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Et je dis déjà, il y a un tas de choses qui se passent. Même, on va arriver après, Dieu est en train de préparer des cœurs. Et donc, cette troisième vision, peut-être on peut juste lire Matthieu 9 aussi, Matthieu 9, 36. C'est vraiment ma dernière parole. Hein, ça... Presque. 9, 36. Hein, à la vue des foules, il en eut compassion, car ils étaient lassés et abattus. C'est ça le monde autour de nous. Lassés, abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et Jésus a dit, oh, regarde ça, son cœur rempli de compassion. C'est Jean-Paul Sartre a dit, l'enfer, c'est les autres. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Il dit ça, c'est mon pain, c'est ma vie, j'ai compassion des autres, c'est mon paradis, les autres. Et je pense, nous, on doit aller vers les autres. C'est ça la vie, le cœur de Jésus, tellement illumine les yeux de mon cœur. Quelquefois, on a une sorte de fatigue émotionnelle dans le cœur. On dit, oh, je ne peux pas porter encore des gens, c'est trop. Le Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Aide-moi à être renouvelé dans ce regard sur la moisson. Et donc, cette vision de la moisson produit toujours l'action, la prière et la mission d'un côté. On va bouger. Et donc, voilà trois visions. Je vais citer quand même une dernière personne. Dr. John Stott, un bon anglais, là, il a dit ceci, « La vision émane d'un profond mécontentement de la situation telle qu'elle est. » Donc si vous êtes mécontent, si vous râlez, oh, c'est pas juste bien, c'est bien. Les bonnes choses, c'est toujours le départ pour quelque chose. C'est bien, la vision émane pas d'une parfaite sainteté, d'une sorte de démocratie utopique, mais la vision émane d'un profond mécontentement. Oh, j'en ai marre, je suis mécontent de comment je vis en ce moment. Je suis mécontent de la situation. Mais il ne faut pas juste rester là. Et il faut avoir une idée claire aussi de comment elle pourrait être. La vision émane d'un profond mécontentement de la situation telle qu'elle est, et d'une idée claire de comment elle pourrait être. Donc, la clé dans cette phrase, c'est l'idée claire. C'est d'avoir des idées claires. Et pour avoir cette clarté, pour avoir ces idées claires, il faut avoir un cœur illuminé pour voir comment ça peut être. Et donc, les trois choses, de voir ce que le Père fait, d'avoir une vision du Père, d'avoir une vision de la défaite totale de Satan et d'avoir une vision de la moisson. Et j'aimerais terminer en priant pour vous. que Dieu illumine les yeux de votre cœur, même maintenant, qu'il vous donne un départ dans ces trois visions, hein, le Père, la victoire et l'action. Hein. Donc, fermez vos yeux et je vais prier. Là. Mais vraiment, là, je pense que j'ai déjà semé par la parole, et c'est juste un petit amen qui va dire oui, que ça reste là. Et donc, Seigneur, maintenant, garde la semence dans les cœurs. Tu aimes les Français. Seigneur, tu aimes la France. Tu aimes cette région. Tu aimes Wavrin. Tu aimes l'Église ici. Et Seigneur, je te demande maintenant d'illuminer les yeux intérieurs, les yeux du cœur. Seigneur, on ne voit bien qu'avec le cœur. Oh Seigneur, aide-nous à voir avec le cœur. Ouvre le cœur. Seigneur, donne-nous une vision de cet amour que je suis aimé ce matin. Tu es mon fils, tu es ma fille, bien-aimé, objet de mon affection. Seigneur, que mon cœur s'ouvre avec cette vision du Père qui m'aime. Seigneur, aide-moi à voir que rien ne pourra me nuire. Je peux marcher sur des scorpions, sur des serpents. Seigneur, je confesse mes craintes, mais Seigneur, guéris-moi de mes craintes. Aide-moi à voir la victoire de ton sang, la victoire de Jésus-Christ sur la croix. Tout est accompli. Seigneur, donne-moi une vision de la défaite totale de Satan. Donne-moi cette vision, donne-moi plus d'hardiesse dans mon cœur. Que mon cœur ne soit plus voilé par la crainte maintenant. Au nom de Jésus, et guéris-moi de toute piqûre de serpent, de toute chose qui m'a piqué, qui m'a blessé dans le passé, Seigneur. Et Seigneur, donne-moi une vision de la moisson. Seigneur, que mon cœur s'ouvre de nouveau pour avoir compassion de ceux autour de moi, d'avoir grâce, de leur donner des paroles d'amour, des paroles qui édifient, Seigneur. Oh Seigneur, je ne veux pas dire encore 4 mois. Je vais attendre avant d'écrire cette lettre. Je vais attendre avant de demander pardon. Je vais attendre avant de parler encore. Mais Seigneur, aide-moi à voir déjà les champs sont blancs pour la moisson. Et Seigneur, pour la France, pas encore 4 mois, mais déjà Seigneur, agis dans notre région. Agis Seigneur, pour que les gens puissent rencontrer ton amour et ta grandeur en Jésus-Christ. Et donc, Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur ce matin, Seigneur, afin que nous ayons pas des visages serrés, mais des visages rayonnantes, remplis de possibilités. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.